Paul de Musset, La Revue des Deux Mondes, Mademoiselle de l'Espinasse. 1. Il est rare que l'on ouvre un livre portant le titre de mémoire sans y découvrir que personne n'a véritablement connu le cœur de l'écrivain. Et cependant, ces mémoires secrets ne sont pas toujours des protestations contre l'opinion des hommes. Ceux qui font eux-mêmes l'histoire de leurs sentiments sont des êtres supérieurs, difficiles à apprécier. Le public, étant composé d'esprits bornés et d'âmes vulgaires, mesure tout légèrement, avec un compas étroit, sans avoir ni l'intelligence ni le goût nécessaire pour approfondir les caractères et reconnaître les motifs des actions. Jamais je ne fus si frappée de l'énorme différence qui peut exister entre la vie apparente d'une personne et sa vie véritable qu'en cherchant à connaître Mademoiselle de l'Espinasse. Enfant adultérin d'une grande dame, objet d'effroi et d'aversion pour une famille puissante qui la repousse, abandonnée à elle-même dès l'âge de 16 ans, Mademoiselle de l'Espinasse passe les années de sa jeunesse dans un état voisin de la domesticité. Elle montre toutes les vertus des âmes froides, la patience, la résignation, la douceur. Elle supporte sans murmurer les mauvais traitements et le célibat. Les grâces de son esprit l'attirent de son oubli. Elle s'attache à D'Alembert, ce grand géomètre que M. de la Harpe a dépeint très faussement comme un cœur insensible. Tous les talents, toutes les illustrations du XVIIIe siècle, des princes, des ministres, viennent la chercher dans son modeste réduit et admirer comment on peut être heureux, agréable aux autres, plein de noblesse et d'élévation dans la pauvreté. Les occasions s'offre souvent de changer de condition et d'acquérir de la fortune. Elle les méprise et demeure avec D'Alembert jusqu'à sa mort. N'est-ce pas là un caractère de philosophe et la vie d'une personne sur qui les passions n'ont pas un grand empire? On lui sait bien une inclination pour M. de Morat, mais sans doute ce sentiment n'est qu'une amitié tendre et délicate, fondée sur des rapports de l'esprit et de la conversation. Puisque Mademoiselle de l'Espinasse n'abandonne point le grand géomètre et que celui-ci aime et recherche M. de Morat. Telle est Mademoiselle de l'Espinasse aux yeux de ceux qui l'entourent, qui la visitent assidûment, qui écrivent son portrait et laissent sur elle des documents auxquels on doit apparemment s'en rapporter. Cependant, 33 ans après sa mort, on publie quelques lettres d'elle, et voilà une femme toute différente de ce qu'on a vu. Ce n'est plus un caractère du philosophe, ce n'est plus l'amie et la conseillère des poètes. C'est l'âme la plus ardente et la plus passionnée, qui aime pour vivre, comme elle le dit elle-même, et qui n'a vécu que pour aimer. Elle meurt dans le sein de l'encyclopédie, écoutant encore à son chevet les moi du poète Rocher, les vers de l'abbé de Lille, et il se trouve que c'est une passion qui la tue. Elle s'éteint après 3 ans de souffrance morale qui brise sa faible constitution et dont personne n'a le soupçon excepté D'Alembert et l'homme pour qui elle meurt. Et ses lettres où Mademoiselle de l'Espinasse paraît telle qu'elle est, où l'amour s'élève par son excès même jusqu'au terrible et au sublime, ne nous donne que l'histoire de ces 3 dernières années. Et pendant les 10 années précédentes, elle avait aimé, avec la même ardeur, et écrit d'autres lettres, évidemment aussi brûlantes, et qui n'existent plus. Elle avait alors 40 ans. Que doit-on présumer de sa jeunesse? C'est peut-être un monde de passion qui est perdu. Le romancier qui voudrait y suppléer entreprendrait une tâche folle et impossible. La réalité seule peut offrir ces grandes péripéties de sentiments qui ressortent de positions simples et d'événements sans importance. Il y aurait des disparates trop grossières entre l'invention et le vrai. Nous nous bornerons donc au récit simple et exact de faits recueillis dans les divers mémoires du temps. Julie Éléonore de Lespinasse naquit à Lyon en novembre 1732. Son entrée en ce monde fut accompagnée de circonstances mystérieuses, d'un triste augure pour son avenir. Sa mère, la comtesse d'Albon, d'une maison riche et noble, ayant eu un commerce criminel avec un gentilhomme de province, dissimula sa grossesse et accoucha en secret chez un marchand. L'enfant fut porté sur les registres de Saint-Paul de Lyon comme fille légitime de Claude Lespinasse et de Dame Julie Navarre. Cet événement n'était un secret pour personne dans la ville et n'en demeura un que pour le comte d'Albon. Comme les femmes peuvent rarement disposer de leurs biens, la comtesse n'assura que 300 livres de rente à sa fille par un fidéicommis. Le marchand garda l'enfant chez lui et l'éleva jusqu'à la mort du mari. À cette époque, la petite Julie, dont la gentillesse et le malheur intéressaient déjà quelques bonnes âmes, rentra dans la maison de sa mère. Mais elle y resta dans une position inférieure à celle des autres enfants. Ceux-ci, jaloux de l'affection de la comtesse pour une étrangère, la traitèrent mal et lui déclarèrent d'avance leur intention de la chasser quand ils seraient maîtres chez eux. Tantôt caressée par sa mère et tantôt rudoyée par ses frères, la sensibilité de Julie s'exalta de bonheur. Mais elle apprit à dissimuler ses souffrances et à répondre aux mauvais traitements par une patience pleine de fierté. Un soir, il y eut un mouvement étrange et sinistre dans l'appartement de Madame d'Albon. Depuis plusieurs jours, Julie n'y avait pas pénétré. Une femme de chambre vint la chercher et la conduisit auprès du lit de sa mère. La comtesse n'avait plus qu'un instant à vivre. Elle révéla en peu de mots à la jeune fille le secret de sa naissance. Elle lui remit une boîte contenant des papiers importants et la donation d'une rente, avec la clé d'un secrétaire où était une somme d'argent considérable, en l'autorisant à garder cette somme pour elle. Les autres, disait la comtesse, seront assez riches. Madame d'Albon embrassa Julie en pleurant, se reprocha de s'être laissée surprendre par la mort sans avoir pourvu à l'établissement de sa fille. Puis elle la renvoya en lui commandant d'avoir du courage et de résister énergiquement aux oppresseurs. On ouvrit ensuite les portes à la famille et aux prêtres qui s'emparèrent de la moribonde et ne la quittèrent plus. Elle rendit l'âme dans la nuit. Le lendemain, le premier soin de Julie fut de porter au fils aîné de la comtesse la clé qu'elle avait reçue. « Je sais, lui dit-elle, que le secrétaire renferme une somme que Madame la comtesse m'a autorisée verbalement à garder pour moi. Mais comme je n'ai pas d'écrit de sa main, je n'ai pas voulu m'emparer de cet argent qui ne m'appartient pas au terme de la loi. » « Vous avez bien fait, répondit brusquement Monsieur d'Albon, car on vous est obligé plus tard à nous le rendre. » Julie passa cette journée dans la maison de sa mère, et ce fut une grande faute à elle de ne pas s'éloigner sur le champ de ses ennemis, car, pendant la nuit suivante, on lui déroba la cassette remise par la comtesse. Elle n'a même pas su ce qui était renfermé dans cette boîte. À peine venait-elle de faire la triste découverte du vol, qui la dépouillait de tout, lorsqu'un billet du comte d'Albon lui fut apporté par un laquais. On lui enjoignait de quitter la maison sur l'heure et de se retirer où elle voudrait, pourvu, disait-on, qu'on ne la revît jamais. Julie était trop fière pour répondre à de pareils procédés autrement que par le silence. Elle sortit, en effet, et se retira chez le marchand Lespinasse. Cependant, son silence même donna des inquiétudes aux d'Albon. Ils crurent qu'elle songeait à se venger. Des avocats les effrayèrent plus encore en disant qu'elle avait les moyens de le faire. Elle était née du vivant du feu comte d'Albon. Et comme la loi respecte et défend les droits de la naissance et du mariage, Mademoiselle de Lespinasse pouvait aisément contraindre la famille à la reconnaître et à l'admettre au partage de la succession. Elle aurait eu l'appui de tous ceux qui avaient vu l'horrible conduite de ses parents. Mais on l'estima plus encore quand on sut qu'elle ne pensait pas à intenter un procès. Les d'Albon, craignant que la misère et le désespoir ne changent ses déterminations, se résolurent à lui assurer de quoi vivre en la mettant sous la dépendance de quelqu'un de la famille. On lui offrit la place de gouvernante des enfants de Madame de Vichy, qui était une demoiselle d'Albon. Elle accepta et on l'emmena aussitôt en Bourgogne, au château de Chanron, où toutes ses démarches furent surveillées. Mademoiselle de Lespinasse avait alors 17 ans. Elle demeura 3 années à Chanron, menant la vie la plus insupportable au milieu de gens qui eussent donné beaucoup pour qu'elle fût morte, qui la craignaient au fond et lui portaient sans doute une haine d'autant plus grande qu'ils étaient coupables envers elle. Le premier regard intelligent qui se fixa sur Julie fut celui de la célèbre marquise du Défant, qui était la sœur du comte de Vichy. Cette dame vint à Chanron dans l'été de 1752. Elle y passa plusieurs mois dans la compagnie de Mademoiselle de Lespinasse et se prit d'amitié pour cette fille malheureuse. C'était une chose nouvelle et un plaisir bien grand pour une personne si longtemps maltraitée que de recevoir des témoignages de sympathie. Elle y fut sensible et répondit aux bontés de Madame du Défant avec âme et vivacité. Quand le retour de l'hiver amena une séparation, Julie pleura si chaudement que Madame du Défant partit avec le projet de se l'attacher comme demoiselle de compagnie. Après le départ de son amie, Julie, ne pouvant plus supporter le séjour de Chanron, abandonna les Vichy et se retira dans un couvent à Lyon, d'où elle se mit en correspondance avec Madame du Défant. Les négociations durèrent fort longtemps. On voit par les lettres de cette dame qu'avant de se décider à faire venir Mademoiselle de Lespinasse, elle demanda conseil à Voltaire, à la duchesse de Luynes et au cardinal de Tencin, alors archevêque de Lyon. La véritable cause de son hésitation est surtout la crainte que Julie n'ait pas encore renoncé au nom et à l'héritage des d'Albon, dont Madame du Défant est belle-sœur. Lorsqu'il est enfin convenu que la jeune fille viendra retrouver sa protectrice à Paris, celle-ci lui écrit encore. Mais avant de partir, je vous demande en grâce de vous bien examiner et d'abandonner le projet de venir auprès de moi si vous n'avez pas parfaitement oublié qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas dans la résolution inébranlable de ne jamais penser à changer d'état. Je vous demande pardon de vous parler de choses si peu agréable. C'est pour n'y plus revenir jamais. Elle y revient pourtant encore dans sa dernière lettre et au milieu des protestations d'amitié, on retrouve cette phrase presque menaçante. « J'espère, ma reine, que je n'aurai jamais à me repentir de ce que je fais pour vous, et que vous ne prendriez point le parti de venir auprès de moi si vous ne vous étiez bien consulté vous-même et si vous n'étiez pas bien décidé à ne faire jamais aucune tentative. Vous ne savez que trop combien elle serait inutile. Mais aujourd'hui, étant auprès de moi, elle deviendrait bien plus funeste pour vous. » La noblesse d'âme et la délicatesse de Mademoiselle de Lespinasse brillent dans sa conduite en cette circonstance. Elle ne dit rien dans ses réponses des craintes injurieuses de sa bienfaitrice et monte en voiture pour Paris. La seule vengeance qu'elle ait tirée de la cruauté des Dalbon consiste à les avoir laissés dans la quiétude, ayant au fond le dessein de n'user jamais de ses droits contre eux. À son arrivée, Julie fut reçue avec des transports de joie. Elle prit d'abord une chambre à Saint-Joseph, d'où elle allait tous les jours chez du défunt. Mais elle ne tarda pas à s'installer dans la maison même de son amie. On ne se quittait plus un seul instant. On parlait de vivre ensemble éternellement. Madame du défunt répétait souvent qu'elle aimait quatre personnes, savoir d'Alembert, Monsieur de Formont, Mademoiselle de Lespinasse et Devreux, sa femme de chambre. Elle n'avait pas encore ce petit chien que ses héritiers traitèrent avec tant d'égards après sa mort, car elle l'eut sans doute admis à la cinquième place. Quoi qu'il en soit, le début de cette liaison fut un grand adoucissement au mauvais destin de la jeune Julie, et on demeura longtemps encore sans deviner par où se montrerait le revers de la médaille. 2. La marquise du défunt était victime, comme on le sait, d'un fléau cruel. L'ennui ne lui donnait pas de trêve. Elle en convenait de bonne foi et en parle si souvent dans ses lettres que malgré tout son esprit, elle communique ce mal contagieux à ses lecteurs. Une autre infirmité vint se joindre à la première. Sa vue s'affaiblissait de jour en jour. Elle fut bientôt tout à fait aveugle. Elle ne pouvait être seule, sous peine d'avoir des attaques de nerfs. Et comme il n'y avait plus pour elle de changement du jour à la nuit, elle ne se mettait au lit que le matin et passait le temps à écouter des lectures de Mademoiselle de Lespinasse. Julie s'était vouée entièrement à l'amitié. Elle ne quittait pas la marquise, se couchait aussi au point du jour et ne voyait que les habitués de la maison. Il semble difficile de croire qu'à son âge, et telle qu'elle s'est dépeinte elle-même, nulle passion n'ait eu accès dans son cœur. Mais il n'en existe aucun indice, et peut-être les feux qui éclatèrent si fort dans la suite n'eurent-ils cette violence incroyable que pour avoir été longtemps étouffée. Vraisemblablement, l'amour qu'elle eut pour d'Alembert a été son premier penchant. Le grand géomètre était plus aimable et mieux fait pour la compagnie des femmes que bien des gens ne pourraient l'imaginer. Occupé tout le jour à la recherche de quelques problèmes, il quittait la science avec la gaieté d'un écolier qui sort de sa classe. Plus l'occupation du matin était abstraite et sérieuse, plus il montrait le soir de bonne humeur, de folie et de goût pour les enfantillages. Du reste, il ignorait les petits usages de ce qu'on appelle le monde, n'allait volontiers que chez des amis intimes, où sa franchise imperturbable et ses inattentions ne choquaient personne. Marmontel dit dans ses mémoires que de toute la société de Madame Geoffrin, d'Alembert était l'homme le plus gai, et le plus animé. Qu'il y avait un attrait particulier à voir cet esprit si solide et si profond faire oublier en lui, par son enjouement, le philosophe et le savant. Quant aux belles qualités de son caractère et à la sensibilité de son cœur, on aura le loisir de les apprécier tout à l'heure. D'Alembert venait régulièrement chez Madame du Deffand. Il avait alors 38 ans. Le président Hénault et M. de Formant étaient avec lui le fond de cette société qui devint bientôt plus nombreuse. La franchise du géomètre fit naître le premier nuage qui troubla l'affection de la marquise pour sa demoiselle de compagnie, dont le philosophe vantait les charmes et l'esprit. Madame du Deffand était jalouse. Elle ne passait déjà qu'avec peine à D'Alembert son amitié pour Madame Geoffrin. Plus d'une fois, elle lui reprocha en plaisantant de venir autant pour Julie que pour elle. Et le géomètre, qui n'y voyait pas malice, disait en riant que c'était la vérité. Au lieu d'employer à son profit la jeunesse et les grâces de son amie, la vieille marquise cherchait à écarter Mademoiselle de Lespinasse à l'heure des visites et ne la montrait que le moins qu'elle pouvait. Lorsque les amis réclamaient contre cette exclusion, c'était toujours D'Alembert qui attachait le grelot. Un matin, le bruit se répandit que D'Alembert était appelé par le roi de Prusse à la direction de l'Académie de Berlin. Ce fut M. Turgot qui l'apprit à Madame du Deffand. Frédéric prenait le meilleur moyen pour éviter un refus. Il offrait des appointements considérables, sa table et l'appartement dans le palais de Potsdam. La nouvelle produisit des effets bien différents sur la marquise et sur Mademoiselle de Lespinasse. La première songea plus au tort que D'Alembert avait eu de lui cacher ce coup de fortune qu'au chagrin de perdre son ami. L'autre, au contraire, se mit à fondre en larmes, tout en répétant que c'était fort heureux et qu'elle se réjouissait de ce grand événement. On envoya aussitôt à la quai avec une lettre chez le philosophe. D'Alembert habitait dans la rue Michel-le-Comte un petit logis fort sombre chez la vitrière qui l'avait nourri. On le trouva le crayon blanc à la main, dessinant des courbes sur un tableau et absorbé comme Archimède. « Mon ami, dit-il au domestique, répondez à ces dames que je ne suis point encore parti, qu'elles me verront ce soir comme d'habitude, et les jours suivants de même, tant qu'il plaira au ciel de me laisser mes jambes. » On attendit le soir avec bien de l'impatience. D'Alembert arriva, enfin, avec son air d'écolier en vacances. « Eh bien, s'écrièrent tous ses amis à la fois, vous n'irez donc pas en Prusse ?»« Non, assurément, répondit-il. » « Mais cette fortune qu'on vous propose, ces honneurs, cette libéralité magnifique. » « J'en suis fort touché. Cependant, je préfère mes travaux, ma vieille vitrière et mes amis. » « Et quelle raison donner au grand Frédéric ?»« La raison que je me donne à moi-même, que j'aime mieux être pauvre dans mon pays que riche à la cour de Berlin. » Que j'ai promis à Diderot de l'aider à faire l'encyclopédie et que je tiens à ma parole. » Le géomètre tira de sa poche la lettre du roi. Elle était pressante et dictée par une estime et une amitié comme peu de souverains en ont pour les philosophes. Il montra ensuite la copie de sa réponse qui était pleine de simplicité, de sens et de véritable grandeur. Nous en donnerons ici quelques phrases où l'on reconnaîtra une élévation de sentiment qui honore l'humanité. Ma fortune, disait-il, est au-dessous du médiocre. 1700 livres de rente font tout mon revenu. Oublié du gouvernement, comme tant d'autres leçons de la Providence, je n'ai aucune part aux récompenses qui pleuvent sur les gens de lettres avec plus de profusion que de lumière. Malgré tout cela, supérieur à la mauvaise fortune, les épreuves m'ont endurci à l'indigence et ne m'ont laissé de sensibilité que pour ceux qui me ressemblent. Je me suis accoutumé sans effort à me contenter du plus étroit nécessaire, et je serais même en état de partager encore mon peu de fortune avec d'honnêtes gens plus pauvres que moi. La vie retirée et obscure que je mène est conforme à mon caractère. Le régime et la retraite m'ont procuré la santé la plus parfaite, c'est-à-dire le premier bien du philosophe. Enfin, j'ai le bonheur de jouir d'un petit nombre d'amis dont le commerce et la confiance font la consolation et le charme de ma vie et à qui mon départ percerait le cœur. Quand il eut achevé sa lecture, D'Alembert s'aperçut avec étonnement que ses amis étaient émus, que le plaisir et l'admiration leur ôtaient la voix et qu'ils demeuraient en silence. La marquise lui tendit la main. Le président Hinault le pressa dans ses bras. « Et vous, mademoiselle, dit le philosophe à Julie, est-ce que vous ne m'embrasserez pas autant pendant que nous voilà en train ?» Mademoiselle de Lespinasse lui sauta au cou et l'embrassa de tout son cœur. « À présent, s'écria D'Alembert, n'y pensons plus et amusons-nous. » En retournant le soir chez sa vitrière, le grand géomètre s'avouait tout bas qu'un nouveau motif plus puissant que les autres le fixait à Paris et que le baiser de Mademoiselle de Lespinasse avait troublé cette sagesse si inébranlable. De son côté, Julie sentit l'amour s'emparer d'elle avec une impétuosité qu'elle eût en vain essayé de combattre. Le désintéressement de D'Alembert eut bientôt une occasion plus belle encore de se montrer. L'impératrice Catherine lui fit l'offre énorme de 100 000 livres de rente s'il voulait se charger de l'éducation du grand-duc de Russie. Le refus du philosophe fut aussi respectueux et aussi net cette fois que la première. D'Alembert resta dans son encyclopédie et son modeste logis de la rue Michel-le-Comte. Cette affaire eut un grand retentissement à Paris. La générosité des souverains du Nord fit tort à l'animosité puérile du ministère français qui se laissa prier pendant 3 mois par l'Académie des sciences pour accorder à D'Alembert la pension de 1 200 livres à laquelle il avait droit en succédant au mathématicien Clairaut. On en parla plus en public que chez Madame du Deffand, car les éloges embarrassaient D'Alembert, et ses amis les épargnaient à sa modestie comme un supplice. Mais les yeux de Julie disaient assez quelle récompense et quelle couronne elle lui décernait au fond de son cœur. La marquise du Deffand, après avoir passé la nuit à écouter des lectures, dormait habituellement jusqu'à 6 heures du soir. Mademoiselle de Lespinasse se levait à 5 heures. Un jour que D'Alembert et le président Hinault arrivèrent avant que la marquise fût habillée, on les conduisit à la chambre de Julie. Ils donnèrent le mot aux autres amis, et bientôt tout le monde vint à 5 heures afin de causer librement avec Mademoiselle de Lespinasse. Ces conversations à la dérobée avait l'attrait piquant du fruit défendu. Aussi le secret en était-il bien gardé. Cependant, comme il est de rigueur qu'une demoiselle de compagnie ait pour ennemi les domestiques, Devreux, la femme de chambre, dénonça Julie à la marquise. Celle-ci jeta feu et flamme et cria partout à la trahison. Depuis ce jour, les relations de Julie et de Madame du Deffand ne furent plus qu'une succession de reproches et d'aigreurs. Le géomètre, qui était le témoin ordinaire des boutades de la marquise, dit un soir à l'oreille de Mademoiselle de Lespinasse que, si elle voulait rompre cet esclavage, il lui offrirait tous les secours en sa puissance. « Je vois trop bien, ajouta d'Alembert, que les bienfaiteurs deviennent les plus cruels des tyrans. Aussi, je ne veux pas me donner ce titre pompeux. J'ai chez moi, dans un tiroir, 2000 livres dont je ne sais que faire, et qu'un de ces matins, quelque écrivain sans talent m'empruntera. Souffrez que je vous les prête pour sortir d'ici honorablement. » « Ah, monsieur d'Alembert, répondit Julie en rougissant, ce n'est pas avec un homme comme vous qu'il faut avoir de la fausse honte. Vous avez assez prouvé combien vous méprisez l'argent. Je le hais aussi, et la pauvreté n'est pas un grand mal pour moi. Cependant, je n'ose accepter de vous un service dont la fortune ne me permettra peut-être jamais de m'acquitter. » « Par ma foi, dit le philosophe, je mettrai bien mon amour à vos pieds avec l'offre de mon appui. Mais je comprends que vous songez au mariage. »« Au mariage ? » s'écria Julie. « Jamais, monsieur. L'idée d'une chaîne éternelle, fût-elle d'or, révolte mon âme. Ne voyez-vous pas que j'en suis réduite aujourd'hui à briser celle de la reconnaissance ? » Hélas, reprit d'Alembert, je suis donc au désespoir que vous ne m'aimiez pas, car moi je vous aime, et nos idées et nos goûts seraient bien d'accord. Julie, arrêtée par la naïveté du philosophe, attendit une occasion où il eut plus de sagacité. Sur ces entrefaites, d'Alembert tomba malade d'une fièvre maligne qui faillit l'emporter. Le médecin Bouvard déclara que le logement chez la vitrière était la cause du mal. M. Vatelet offrit un appartement plus sain dans son hôtel de la rue du Temple. On y transporta d'Alembert. De là, il écrivit à Mademoiselle de Lespinasse une lettre où il disait qu'il se mourait de l'ennui de ne pas l'avoir encore plus que de la fièvre. Julie n'y résista pas. Elle quitta brusquement la marquise et courut s'établir au chevet du malade. D'Alembert revint à la vie grâce aux soins qu'elle lui donna, et depuis ce moment, ils ne se quittèrent plus. Les lois du monde sont variables et capricieuses. On accable les uns et on passe tout aux autres. D'Alembert et Mademoiselle de Lespinasse furent privilégiés. Il se fit à leur égard une espèce de justice que nous trouvons belle et louable. Le philosophe avait déployé de si grandes vertus qu'on lui pardonna d'accorder une faible part aux passions et à la nature. On poussa l'indulgence jusqu'à dire et écrire que la liaison de ses amants était fondée sur le sentiment de l'amitié, qu'on sût très bien qu'ils vivaient comme mari et femme. Les persécutions de Madame du Deffand ne changèrent l'opinion de personne et tournèrent à sa honte. Les idées et les sentiments de Mademoiselle de Lespinasse avaient pris leur vol dans cette sphère élevée où tracasserie ne pouvait plus l'atteindre et son calme imposa au public. « Laissez dire, répondait-elle aux avertissements de ses amis, tout s'oubliera, tout ira bien. La haine n'est pas éternelle, puisqu'on assure que l'amour ne l'est pas. » Julie sut prouver qu'elle disait vrai et que son cœur pouvait changer. Cependant, on la crut fixée pour la vie et on trouvait cette union parfaitement assortie. Son esprit la rendit bien vite célèbre. On se donnait rendez-vous chez elle de tous les coins de l'Europe, et il lui venait quelquefois jusqu'à 100 visites dans la journée. Sa conversation était pleine d'imprévus et d'originalité, d'aperçus qui s'élevaient parfois jusqu'au génie. Son jugement était exquis à l'ordinaire. Mais elle s'engouait aisément, comme toutes les femmes, et voyait des talents, des vertus et des beautés où il n'y avait que des qualités médiocres, travers inévitable dans les imaginations exaltées. Sans être jolie, Mademoiselle de Lépinasse charmait tout ce qui l'approchait par un naturel devant lequel la coquetterie paraissait un ridicule. Les femmes la craignaient à cause de l'écrasante supériorité de son intelligence. Aussi n'eut-elle pour amie que Madame Geoffrin, qui n'était pas jalouse. Julie fut la seule femme admise au fameux souper littéraire de cette généreuse âme qui dépensa 100 000 écus pour le succès de l'encyclopédie. On parla tant de Mademoiselle de Lespinasse à la cour même que le roi se fit conter son histoire et lui donna une pension de 1 500 livres. Avec une fortune aussi modique, elle n'avait pas un grand état de maison. Ceux qui la recherchaient n'étaient donc attirés ni par la bonne chère, ni par le luxe. D'Alembert répandait de la gaieté dans le salon de son ami. Son bonheur dura près de 10 ans, sans interruption. Mais une fois qu'il fut troublé, ce fut d'une manière funeste pour tous deux. Des orages terribles succédèrent, et le calme ne revint jamais. Mademoiselle de Lespinasse vécut toujours de même en apparence. Pourtant, il y a un tel être qui ne bouge du coin de son feu et dont l'existence est plus tourmentée que celle d'un personnage de tragédie. Ce ne sont pas les destinées qui sont vulgaires, ce sont les hommes. Chacun porte en soi sa fatalité. Et si vous retranchez de la vie d'une personne la part qui ont eu son jugement, ses vertus et ses défauts, ce qui restera au hasard ne sera pas considérable. C'est à son esprit que Mademoiselle de Lespinasse a dû son rang dans le monde. On verra bientôt qu'elle dut aux passions ses plaisirs, ses souffrances et les secousses violentes qui l'ont tuée encore jeune.